Bonjour à tous et bienvenue à notre culte ce matin. Le psaume 136 nous dit « Louez l'Éternel, il est bon, car sa bonté dure à toujours ». Et nous voulons ensemble ce matin louer le Seigneur parce que sa bonté dure à toujours. Quelles que soient les circonstances de nos vies, le Seigneur nous appelle à tourner les regards vers lui et à célébrer sa bonté. Nous allons le faire avec joie, car l'Éternel est bon, il est tout-puissant. En entrant dans ce culte, la parole nous dit « Entrez dans sa présence avec la joie dans votre cœur. Servez l'Éternel à avec joie. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble. Nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ. Il nous a sauvés, il nous a libérés. Et c'est un grand privilège, c'est un grand cadeau que de le connaître, de vivre pour lui, de vivre avec lui. En lui, je sais qui je suis. Par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, à l'été, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, il m'a racheté à la croix, grâce à Seigneur, d'être à toi, d'avoir été choisi. Et tu touches chacun, chacune. Il n'y a pas de favoris, de privilégiés. Nous sommes tous attendus. Tu nous tends la main à chacun et chacune. Et ainsi, tu viens vers nous pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants. C'est un grand cadeau, Seigneur. Te bénissons, te louons de tout notre cœur. La joie que nous avons de t'appartenir, te te servir ce matin, dans nos cœurs, là où nous sommes, derrière nos écrans, ici, pour te louer, te célébrer. Célébrer ta bonté, ton amour, ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci.
Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Merci parce que chaque jour, Seigneur, tu es là, tu nous accompagnes, Seigneur, quelles que soient nos circonstances, quelle que soit notre vie, Seigneur, tu es là. Et même si parfois on a du mal à s'en rendre compte, Seigneur, tu es là. Merci parce que tes promesses sont vraies, tes promesses sont oui et amen, et il n'y a rien d'autre, Seigneur. Merci parce que tout ce que tu as dit, tu l'as accompli et tu l'accompliras encore. Merci pour ta bonté infinie, merci pour ta grâce. La grâce dont tu as fait preuve dans nos vies et dont tu continues à faire preuve chaque jour. Merci Jésus pour tous tes bienfaits.
Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me calme, le salut de ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon. Sois le feu qui brûle en moi, la raison de ma vie, oh il est mon chant, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh,
tu es bon,
tu es bon, bon, oh,
tu es bon.
Ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais.
Tu montes.
Pensez à cela, tu ne m'abandonneras jamais. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les drames, tu ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu
tu es bon.
Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Pendant quelques instants. Pour penser à la bonté du Seigneur. À chaque fois où il était là, présent dans ta vie, parfois silencieux, parfois de manière tangible, pensant à cela, pensant à la bonté de Dieu. Dieu est bon. Il est le bon Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et en même temps, il est ce Dieu qui est bon. Sa bonté durera toujours. Lorsque le peuple d'Israël louait, célébrait le Seigneur, il y avait comme un leitmotiv dans ses chants. Les sacrificateurs, les médiateurs à ce moment-là, et les chantres, ceux qui étaient chargés de conduire la musique, le chant, la louange, n'avaient que cette parole à offrir. Tu es bon, car l'Éternel est bon, et car sa miséricorde dure à toujours. Car il est bon, disait Israël. Et son peuple aujourd'hui est appelé aussi à le louer de cette manière, à se souvenir de sa bonté. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour ta bonté. Alléluia. L'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, sans s'en malader, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est l'amour du chant. Louez mon sauveur le jour du rang. C'est mon histoire, c'est l'amour du chant. Louez mon sauveur le jour du rang. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendant dans ton retour, je suis comblé de ton amour. Est-ce votre histoire? C'est mon histoire de, c'est la manche. Louez mon sauveur le jour du rang. C'est mon histoire de, c'est la manche. Louez mon sauveur. Au Seigneur une ovation et l'acclamer pour ce qu'il a fait dans nos vies. Chacun d'entre nous, nous pourrions écrire une histoire, cette histoire dans laquelle tu es au centre. Tu as sauvé nos vies, tu nous as délivrés, tu as mis devant nous un chemin nouveau, tu as offert une nouvelle perspective. Il y a un horizon, des portes nouvelles qui s'ouvrent devant nous. Et notre prière, c'est que tout un chacun puisse entrer dans ces perspectives d'avenir, perspectives éternelles. Partage ce matin au travers de ce culte avec ceux qui sont à l'écoute cette espérance de vie en Jésus-Christ. Oh, nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir te célébrer, te louer de tout notre cœur. Et tous ceux qui m'entendent et m'écoutent disent un grand Amen, 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 Amen. Si on pouvait, on pourrait se saluer les uns les autres. Où que vous soyez ce matin, peut-être dans votre cuisine, dans votre chambre à coucher, je ne sais pas, mais en tout cas, soyez bénis, soyez salués chaleureusement. Est-ce qu'on peut dire des salutations chaleureuses à ceux qui nous écoutent, qui nous entendent? Et puis, qu'on pense très fort à eux. Voilà. Voilà, j'espère que vous êtes en forme et vous aussi derrière les écrans. Pour nous ici, c'est lendemain de mariage, célébration et les festivités. C'est toujours un tout petit peu difficile de retrouver ses repères. En tout cas, un grand merci à l'équipe technique qui fait un travail remarquable. Merci aussi aux équipes d'accueil, équipes de ménage. Et vraiment, on peut vous rassurer, vous qui êtes derrière les écrans, derrière votre téléphone, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez venir dans les meilleures conditions sanitaires possible. Donc on vous invite à être là, si vous le souhaitez bien sûr, pas de souci, n'hésitez pas, prenez contact avec nous, inscrivez-vous si vous n'avez pas l'occasion ou l'habitude de vous inscrire, vous pouvez téléphoner. Pour ceux qui ont l'habitude de manier internet, vous allez sur le site et là vous cliquez et vous laissez conduire, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez un contact, vous pouvez nous envoyer un mail dont le... les coordonnées s'affichent incessamment sous peu. Et puis aussi, vous pouvez nous téléphoner. Enfin, vous connaissez maintenant cette habitude. On a prévu pour reprendre lentement mais sûrement une réunion de prière via Zoom. On a déjà eu des réunions de prière via Zoom, des contacts. Alors, on prendra des nouvelles des uns des autres et puis on aura l'occasion de prier. On a pas mal de sujets de prière. Ce ne sont pas les sujets de prière qui manquent, mais en tout cas, on veut se retrouver sur Zoom, cette plateforme que vous commencez à connaître. Donc, le jeudi 20 août à 19h. Retenez déjà cette date, jeudi 20 août, 19h. D'ailleurs, c'est cette semaine, hein. Jeudi 20 août, cette semaine à 19h, on se donne rendez-vous sur Zoom. Et puis là aussi, on vous enverra les connexions possibles, n'ayez crainte. Donc tout ça, ça va bien se mettre en place. Et puis, une pensée particulière pour la famille Ebersol. Vous savez, c'est cette famille d'agriculteurs qui a pratiquement tout perdu au cours d'un incendie l'année dernière. Et nous voulons à nouveau prêter main forte pour tous ceux qui sont disponibles, donc avec tous les bénévoles, ramassage de pommes de terre le samedi 22 août et le samedi 29 août. Alors pour ce faire, évidemment, il y a des conditions particulières cette année. Il faut prendre contact avec Gérard Feuerstoss. Et là aussi, je crois que le numéro est en train de s'afficher. Donc, numéro de téléphone, le 07 71 84 80 90. Prenez contact avec Gérard pour l'organisation de ce ramassage de pommes de terre le 22 août et 29 août. Et puis, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine, il y a des possibilités aussi pour toute la semaine d'être salarié pour des travaux agricoles. Donc la famille Ebersol attend, je pense que ça c'est une occasion en particulier pour des étudiants qui cherchent un petit boulot, un job, toute une semaine avec la famille Ebersol pour des travaux agricoles. Donc n'hésitez pas là aussi à prendre contact. C'est pas cette semaine, mais c'est la semaine d'après, toute la semaine. Donc des possibilités de toucher un salaire pour une semaine, et je pense là en particulier pour ceux qui n'ont cherchent du travail, ceux qui sont étudiants et qui cherchent encore un peu un job avant la rentrée, ça serait vraiment l'idéal. Et puis, on a deux sujets de prière. Cette semaine, donc, on a eu deux décès. Notre frère Marcel Christophe est décédé à l'âge de 90 ans. Et puis, donc, on pense très fort à Yvette, qui nous regarde aussi en ce moment. Pense très fort à elle, Yvette, on veut la soutenir de notre affection, de notre soutien, mais aussi de notre prière. Et puis notre frère Joseph Kieger, qui nous a quittés à l'âge de 91 ans. Et là aussi, on prie pour notre sœur Simone, qui voilà, entre dans une phase de deuil. C'est un moment particulier, un moment difficile, quand pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a vécu ensemble, se trouver séparés tout d'un coup. C'est difficile, c'est douloureux, donc on pense aussi à Simone et on prie pour que le Seigneur fasse grâce. D'ailleurs, on va le faire tout de suite si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, penser à nos sœurs qui sont veuves? Seigneur, on a une pensée très forte pour Yvette ce matin, une pensée pour Simone. C'est l'Église, on est là, dans les joies et dans la peine. Il y a ce temps de deuil aussi qui est là devant elle, et nous voulons vraiment les entourer par notre prière. Te demander d'accompagner Yvette et d'accompagner Simone dans cette saison de deuil. tu n'es ni lointain, tu n'es ni silencieux. Merci de te manifester tout particulièrement en leur faveur, à leur égard, pour elles, mais aussi les familles autour d'elles qui sont concernées par ces deuils. Merci de ta présence et merci de ta bonté au-delà de la souffrance. Tu es bon, Seigneur. Merci d'être bon pour Simone et d'être bon pour Yvette et d'être bon pour chacun, chacune d'entre nous. Amen. Amen. On va maintenant, vous pouvez reprendre place, on va maintenant écouter la parole de Dieu. Le message ce matin sera apporté par le pasteur Pierre Samuel et je lui laisse sans tarder maintenant la place.
Amen. Ça va, vous m'entendez bien? Oui? Super. Hop. J'espère que ce matin vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et malgré le masque, est-ce que je peux voir un sourire? C'est-à-dire normalement c'est vos yeux qui devraient bouger en fait, en vrai. Alors est-ce que je peux voir un sourire quelque part? Ouais, j'arrive à voir les yeux qui se plissent un peu. Et vous avez le droit de sourire derrière votre caméra aussi. Comme ça, ça sera. On peut commencer en étant dans la joie. Je crois que Dieu est présent, que Dieu agit et que Dieu nous fait grâce jour après jour. Et si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que vous pouvez dire un grand amen bien fort? Amen. Ouais, je vous entends derrière les masques, hein, quand même. Hein. Ok, j'ai beaucoup de joie d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et alors que je priais pour ce message, je suis tombé sur le livre de Ruth. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire. Et j'aimerais qu'on puisse parler de ce texte. Le titre de mon message ce matin est « Quand Dieu renverse les situations ». Quand Dieu bouleverse les situations, quand Dieu change, transforme les situations. Et j'aimerais qu'on puisse parler ce matin de voir comment Dieu est capable de transformer complètement des situations qui semblent complètement fermées et de changer au final les tristesses en bénédiction, les souffrances en bénédiction. Et je crois que Dieu est capable de le faire dans chacune de notre vie. Je crois que après la souffrance vient la bénédiction. Et je dis pas ça simplement pour dire on va avoir une positive attitude, on va juste essayer de tous se mettre dans la tête que c'est comme ça que ça se passe, mais je crois que Dieu est rempli de compassion et de grâce pour ses enfants et que sa souveraineté, son regard et sa direction pour notre vie peut nous amener à expérimenter la bénédiction de Dieu. Je crois que les enfants de Dieu sont bénéfices de celui qui est le Papa Céleste. Et que chacun d'entre nous, on l'a chanté dans un des chants de Michel, et que Michel nous a apporté, nous sommes enfants de Dieu, et nous sommes donc au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Alors quand Dieu renverse les situations, alors pour le comprendre, on va partir ensemble de l'histoire de Ruth, et je vais vous remettre dans le contexte. Tout le monde connaît Ruth ? Ouais, vous avez peut-être déjà lu cette histoire, et pas qu'une fois. Et allez, je fais un petit quiz, vous avez le droit de répondre aussi quand vous êtes en ligne. Quel est le livre qui arrive juste avant Ruth ? Ouh, il y en a, ils sont en mode buzzer, ils sont prêts là. Et oui, tout le monde a répondu juge. Et quel est le livre qui arrive juste après ? 1 Samuel. Quelqu'un a ouvert sa Bible, il a triché, c'est pas juste. Ou il y en a qui se rappellent la chanson qu'on a appris quand on était à l'école du dimanche avec tous les livres qui défilent les uns derrière les autres. Effectivement, Ruth se trouve entre juge et 1 Samuel. Autrement dit, et ce livre se trouve au moment où la Bible nous dit dans juge que en ce temps-là, chacun vivait selon ce qui lui semblait bon. Cette période, elle est caractérisée par la désobéissance, l'idolâtrie et la violence, et plusieurs juges vont se succéder. On entend parler, vous connaissez, de Samson, par exemple, qui fait partie de cette lignée des juges. Et dans cette période difficile, avant que surgissent Saül puis David, il y a l'histoire de Ruth. Et l'histoire de Ruth commence à un moment par, dans ce pays, il y avait la famine. Et la famine a poussé Ruth, avec son mari, à aller dans le territoire de Moab. Et le territoire de Moab, si, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, c'est les ennemis d'Israël. Donc il y a la famine, et cette famille de Ruth va dans un territoire étranger. L'histoire continue par quelque chose de tragique, où Ruth va perdre son mari, et quelques années plus tard, ses deux fils, la laissant seule avec ses deux filles, Orpa et Ruth, qui sont des Moabites. Là, sa belle-mère Naomi nous dit, mais Orpa, Naomi, retournez, Orpa et Ruth, retournez dans votre pays. Mais Ruth va leur dire, ça se trouve dans Ruth 1,16. Ruth répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alors, si on fait une petite pause là maintenant, je pense qu'en termes de contexte compliqué, l'histoire de Ruth, il y a ce qu'il faut. Le deuil, le fait d'avoir été transporté dans un autre pays qui n'est pas le sien, la famine. On peut comprendre qu'ici, la situation, elle est loin d'être positive et loin d'être facile. Et je ne sais pas si ça vous arrive d'arriver dans ces moments dans ta vie où tu as l'impression que tout se cumule et que tout est en train de se renfermer contre toi et tu te dis, mais est-ce que Dieu est capable d'intervenir vu l'état de ma situation ? Et j'aimerais ce matin qu'on saisisse que Dieu n'est pas limité par la situation parce que Dieu a un plan parfait pour ta vie. Et que peu importe, aussi difficile que la situation puisse être, si tu es passé par le deuil, si tu passes par la maladie, si tu passes par les souffrances, Dieu reste le même. Et je ne sais pas si ici il y a des gens qui passent par ces moments, mais Dieu ne change pas en fonction des circonstances. Dieu est le même pour toi comme il l'est pour moi. On continue l'histoire de Naomi ? Naomi quitte le pays de Moab, les ennemis d'Israël, vous aviez bien compris, et va à Bethléem. Et elles arrivent, Naomi et Ruth, et elles arrivent sans rien. Aucun moyen de subsistance, elles se retrouvent toutes seules, c'est des femmes qui sont isolées. Et en arrivant, Naomi va dire à toutes ses amies qu'elle retrouve sa famille, elle leur dit « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara », ce qui veut dire amère, amertume. Et entre nous, je ne crois pas qu'on puisse la blâmer d'être dans cet état-là. Parce que passer par ce qu'elle est passée, il faut être capable de le saisir. Il faut être capable de le vivre. Elle arrive et en arrivant, ben, il n'y a rien à faire. Donc la seule solution, c'est que Ruth puisse aller glaner dans les champs pour nourrir sa belle-mère. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait une loi qui disait quand il y a des gerbes de blé qui tombent, quand il y a du surplus, laissez-le tomber pour le pauvre. Et ça fait partie des lois qui ont été mises en place pour que les pauvres puissent toujours avoir à manger. Considérons donc bien que Naomi et Ruth ici sont mis au banc de la société étant simplement les derniers. Et Ruth va aller glaner dans un champ. Glaner, c'est récupérer, c'est ramasser. Ruth va aller glaner dans un champ et comme par hasard, et moi j'aime bien le hasard de Dieu, elle va commencer à glaner dans un champ qui est le champ de Boaz. Et qui est Boaz ? Boaz, c'est un membre de la famille de Naomi. Tiens, c'est bizarre le hasard de Dieu, comme Dieu fait bien les choses. Quelqu'un a dit, c'est le hasard avec un grand D. Seulement, elle continue à glaner et Boaz la remarque et, il voit la fidélité de Ruth. Et jour après jour, il voit qu'elle continue, qu'elle s'accroche et Boaz va commencer à prendre soin d'elle de manière miraculeuse. Il va vouloir se rapprocher de lui et Naomi va encourager Ruth à dire, mais rapproche-toi de Boaz. Et Boaz et Ruth vont se rapprocher. Mais il y a un problème. C'est que quelqu'un a le droit de rachat sur la vie de Ruth et de Naomi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un proche parent qui est plus proche que Boaz et qui doit normalement, dans la loi, s'occuper de cette famille. Alors Boaz, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir ce proche parent, il va lui dire « Est-ce que tu veux les racheter ?» Le gars dit « Oui ». Mais elle leur dit « Si tu veux les racheter, ça veut dire que tu dois épouser Ruth. » Et le gars dit « Non, j'ai pas envie d'épouser Ruth. » Donc Boaz va racheter va utiliser son droit de rachat pour la famille. Ça va, vous me suivez ? Si vous êtes perdu, levez la main. Ok, je peux continuer alors. À ce moment-là, Boaz et Ruth vont se marier et Ruth et Boaz vont avoir un enfant qui va s'appeler Obed. Et Obed, qui c'est ? C'est rien d'autre que le grand-père de David, le roi David. Comprenez bien, dans l'histoire qu'on va partager ensemble, que Dieu part d'une femme moabite qui s'appelle Ruth, rejetée, mise de côté, qui abandonne son pays, qui se retrouve toute seule dans un pays pour devenir, excusez-moi du peu, la grand-mère de David. Et qui plus est, dans la lignée de Jésus, si vous lisez Matthieu. Comprenez bien, et comprenons bien ensemble, que Dieu est capable de renverser les pires et les plus compliqués de toutes les situations pour t'amener à rentrer pleinement dans le plan divin que Dieu a tracé pour ta vie et pour ma vie. Et qu'il n'y a aucune situation où Dieu n'est pas capable d'agir et de se manifester. Amen. Alors réfléchis à ta situation là. Quelle est la situation qui aujourd'hui te bloque? Où? Et ça va dans toutes les situations. Ça va du deuil à la maladie, à la tristesse, mais ça peut être aussi des blocages intérieurs. Est-ce que Dieu est capable d'agir? Moi, je crois que oui. Amen. Et un point intéressant, c'est que durant toute cette histoire, le nom de Dieu est à peine mentionné dans l'histoire de Ruth. Relisez tout Ruth, le nom de Dieu, il est à peine mentionné. On n'en entend parler qu'à travers les paroles de Naomi quand elle dit « l'Éternel m'a », c'est tout. Mais le nom de Dieu, son intervention directe, elle n'est pas là, on ne la voit pas. Par contre, il est l'acteur silencieux. Et j'aimerais l'appliquer pour ma vie. Dieu, est-il absent de tes souffrances ou de tes situations? Comment comprendre les silences de Dieu? Y a-t-il des moments où tu as l'impression de te dire « je suis tout seul dans ma vie » et il n'y a personne qui comprend ce par quoi je suis en train de passer? Mais ce texte va nous ramener, et c'est là où Dieu est un Dieu de miracles. C'est que même si tu as l'impression que Dieu n'est pas là, Dieu agit pour toi. Dieu travaille pour toi parce que Dieu t'aime d'un amour sans limite. Ce livre de Ruth, qui est dans une symétrie parfaite, commençant par une profonde tragédie et la mort, va se terminer par une nouvelle naissance et la joie. C'est ce livre-là qui va nous amener ce matin à comprendre que Dieu est capable de renverser les situations pour passer de la souffrance à la joie, pour passer de la malédiction, en tout cas aux yeux des hommes, à la bénédiction. Alors si tu es prêt avec moi, on y va dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre la bénédiction? Est-ce qu'il y en a qui veulent passer plus loin que la situation dans laquelle ils sont? Alors on y va ensemble. Dieu est avec nous dans nos hauts comme dans nos bas. La Bible nous dit, nous savons que Dieu fait courir, pardon, Romains 8, 28, excusez-moi pour la technique. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu est en train de faire pour ta vie. Alors ne désespère pas parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Premier point que j'aimerais traiter avec vous. Le premier point est celui-ci. Dans la situation de Ruth, et ça va être la situation à laquelle on va s'appliquer à nous, Dieu collabore avec nous pour renverser les situations. Dieu travaille avec nous pour renverser les situations. Trois situations m'amènent à comprendre ce qu'il y a comme relation entre les hommes et les dieux et Dieu. En arrivant à Bethléem, Ruth va glaner dans un champ qui s'avère être celui de Boaz. Autrement dit, je vous le disais tout à l'heure, le hasard avec un grand D, où Dieu a déjà prévu qu'elle aille glaner dans ce champ spécifiquement, qui est celui d'un proche parent. Deuxième point, Naomi va conseiller à Ruth d'agir de manière décisive avec Boaz, mais elle doit attendre de voir les choses évoluer et l'aboutissement être entre les mains de Dieu. Autrement dit, Naomi dit à Ruth, fais-le, et c'est Dieu qui s'occupe de la réponse. Vous me suivez toujours? Troisième situation, Boaz va épouser Ruth, mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui va leur donner un enfant. Et on voit une collaboration étroite entre l'homme et Dieu. Et moi, ça m'encourage. Parce que je comprends que dans ma vie, Dieu est capable de travailler avec moi. Il peut arriver que dans ta vie, tu as l'impression d'être limité. Et que en fait, au lieu de vivre ta vie, tu es en train simplement de la subir. Mais je crois que si le plan initial de Dieu était de créer les hommes, c'est aussi parce que Dieu veut travailler avec nous. C'est aussi parce que Dieu a prévu une collaboration. Et bien souvent, et c'est là où j'aime la façon dont Dieu nous perçoit, c'est que bien souvent Dieu nous perçoit autrement que ce que nous percevons nous-mêmes. Est-ce que moi je peux être utile pour le royaume de Dieu? Est-ce que moi je peux servir? Quand j'ai commencé à servir Dieu en tant que pasteur, je me souviens dans la première église où j'ai servi, ce qui s'est passé à un moment, c'est que le pasteur qui était en place a quitté l'église pour aller dans une autre église et il n'y a pas eu de remplaçant. Donc, ce pasteur en place est venu me voir et m'a dit, Pierre Samuel, tout le monde sait que je m'appelle PS maintenant, mais tu es en formation, on va t'accompagner, mais est-ce que tu veux bien prendre la gestion de l'église? Alors moi, j'ai dit, moi je veux bien, mais je vous dis tout de suite, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, mon boulot, c'est prof, et je ne suis pas capable. Et pendant une année, on a travaillé, on s'est laissé porter par la grâce de Dieu. Et je crois vraiment que Dieu nous a utilisés d'une manière miraculeuse en nous disant « Je vous ai appelé avec mon épouse, je vous ai appelé à être le couple pastoral pour cette église, alors prenez votre place. Et on l'a pris ensemble. Et par la grâce de Dieu, on a vécu une année bénie. Je me souviens de cette fameuse soirée où on est un jeudi soir, il est tard, je viens de passer une journée un peu compliquée au boulot, et il y a la réunion de prière, il y a 5 ou 6 personnes qui viennent, et là, je dis, ça va être long, quoi. Tu sais que les réunions de prière à 5 ou 6, c'est pas forcément super dynamique. Et ce soir-là, il y a un plus, j'arrive à l'église et il y a un nouveau. Moi, je fais 42 km de route pour aller jusqu'à l'église, et là, il y a un nouveau. Je me dis, Seigneur, tu n'aurais pas pu le faire arriver dimanche, c'est mieux le dimanche quand même. Il y a plus de louanges et tout, enfin, c'est mieux. Non, non, Dieu le fait venir à ce moment-là. Et je me dis, Seigneur, je suis fatigué. Et je prêche mon message, et je prêche, je crois que le Saint-Esprit m'utilise au-delà de ce que je suis capable de faire, en fait. Et on prêche le message, et la personne vient me voir à la fin, et il me dit... Bonjour, je suis nouveau, je travaille à tel endroit, et est-ce que c'est vous le pasteur ? Bon, on va dire pour ce soir, c'est moi. Vraiment, j'avais cette considération, et je me dis, je ne mérite pas cette position. Et à ce moment-là, la personne me dit, écoutez, vous avez prêché mot à mot ma vie, et là où j'étais bloqué dans ma vie, vous avez dévoilé ma vie. Et c'est là que j'ai compris une chose, c'est que le rôle que Dieu m'avait donné à ce moment-là ne dépendait pas ni de mes capacités, ni du fait que j'ai de l'expérience ou pas, mais simplement de la grâce de Dieu, qui m'appelle à répondre à son appel. De la même façon, je crois que Dieu nous appelle chacun d'entre nous à répondre à l'appel de Dieu, à être là où on doit être, en collaboration parfaite. Dieu perçoit plus de toi que ce que toi-même tu perçois. M.D. Gao, qui écrit dans des commentaires bibliques, a écrit « La rencontre était d'un point de vue humain le fruit du hasard, mais en réalité le fruit d'une vigilance de la providence divine. La rencontre entre Boaz et Ruth n'est pas le fruit du hasard, mais Dieu conduit nos vies pour que nous ne soyons pas poussés par le hasard, mais bien par la providence de Dieu. Oui, Ruth, ici, bénéficie déjà de la bénédiction de divine. Et j'aimerais que tu puisses saisir cette réalité. Dieu n'a pas fini son travail avec toi. La providence de Dieu, elle est là sur ta vie parce que Dieu t'aime. Et il y a des moments dans notre vie où Dieu va déclencher des situations, des portes vont s'ouvrir, où tu t'y attendais même pas, des gens qui au départ n'avaient pas forcément prévu vont venir et vont t'apporter une aide. Il y a une solution qui va arriver à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Dieu te dit que tes pas sont assurés, parce que tu marches en confiance avec Dieu. Dieu ouvre des portes que nul ne peut fermer. Et même si tu as l'impression que Dieu est un acteur silencieux, Dieu agit encore, non pas en fonction de ce que l'on pense, mais en fonction de ce que lui décide. Amen. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à aligner nos pensées à sa façon de penser. Est-ce que tu es prêt à aligner tes pensées à sa façon de penser ? La providence de Dieu intervient en faveur de l'être humain. Mais là où je voudrais encore pousser un petit peu plus loin, c'est que oui, la providence de Dieu agit, mais les décisions humaines et divines coopèrent au même but. C'est l'auteur qui s'appelle Campbell qui a écrit un livre qui s'appelle Ruth et qui nous dit « Bien que Dieu soit l'acteur invisible, l'histoire est très humaine. Celle de personnes vivant comme elles doivent vivre sous la souveraineté d'un Dieu qui met en œuvre sa volonté. » Je crois que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous la capacité, la possibilité et l'intelligence pour agir de la bonne façon. J'étais il n'y a pas longtemps... en congé, et on avait des invités, et on commence à, et je discute avec une ado qui vient me voir et qui me dit, mais PS, comment on fait finalement pour entendre et discerner la volonté de Dieu ? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Comment tu l'entends finalement, la voix de Dieu ? Comment t'es sûr que t'es dans le plan de Dieu ? Si quelqu'un ne s'est jamais posé la question, levez la main. Ok, on est bien d'accord ? On se pose tous cette question à un moment, hein ? Et je partageais avec elle sur cette notion d'être à l'écoute de la voix de Dieu à travers la parole de Dieu, à travers aussi la paix dans le cœur, comment Dieu nous parle à l'intérieur, à travers les circonstances aussi, comment Dieu dirige, qui sont des moyens où Dieu nous parle. Mais je parlais aussi de cette notion où le Saint-Esprit qui habite en nous peut nous conduire et nous diriger là où on ne pense pas aller, là où Dieu a prévu d'aller. Est-ce que Dieu est assez grand pour nous faire confiance pour faire les bons choix ? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu peut te faire confiance pour faire le bon choix ? Est-ce que le Saint-Esprit qui a été déposé en toi par Dieu n'est pas suffisant pour te dire « voilà le bon choix » ? Ce n'est pas évident. Hein ? Mais je crois réellement que c'est comme ça que ça fonctionne. Le Saint-Esprit nous est déposé d'en croyant pour que nous puissions agir avec sagesse. Et ça, c'est une réalité. Je ne suis pas un humaniste, je ne crois pas dans l'homme. Mais je crois dans l'homme régénéré par le Saint-Esprit. Parce que je crois que Dieu est capable d'agir avec ce que nous sommes, malgré nos faiblesses et malgré nos incapacités. Écoutez bien ce texte de Proverbes 16, verset 1. « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on puisse l'utiliser. Recommande tes œuvres, ramène tes projets à Dieu, écoute la réponse de Dieu, mais tu as le droit de faire des projets. Accepte simplement la réponse. Oui, Dieu nous utilise pour l'accomplissement du plan divin. Amen. Et Dieu veut t'utiliser comme il m'utilise. Et regardez, c'est là où c'est extraordinaire. Ruth, c'est quoi son origine? Elle est Moabite. Qui sont les Moabites? Les ennemis jurés d'Israël qui adorent les faux dieux, qui font des massacres. Et pourtant, Dieu va accepter son adoration et sa conversion, peu importe son origine. Dieu est capable de nous utiliser. Écoutez bien, sans l'intervention d'une femme moabite, il n'y aurait pas de David. Parce que Dieu a été capable d'utiliser une femme d'un autre peuple. Une femme est utilisée pour l'accomplissement du plan divin, une moabite. Et écoutez bien, ça va plus loin. Les moabites étaient disqualifiés par la loi. Ils n'avaient pas le droit de citer. Regardez ce texte, Deutéronome 23, verset 3. L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Sous-entendu, Ruth, ici, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait. Elle est disqualifiée par la loi. Mais Dieu va la qualifier par sa foi, parce qu'elle décide d'accepter le Dieu de Naomi, qui est le peuple d'Israël, qui est Yahvé. Disqualifiée par la loi, mais par sa foi, elle est intégrée au plan rédempteur de Dieu. J'aimerais vous dire que personne ne devrait se sentir indigne de servir le Seigneur en raison de sa couleur de peau, de son sexe ou de ses origines. Dieu peut utiliser toutes les circonstances pour l'avancée de son règne. Alors s'il te plaît, fais pas comme j'ai fait pendant un temps. Ne dis pas « je suis trop petit, je suis trop limité ». Mais dis-toi, Seigneur, utilise-moi comme tu veux que je sois utile pour toi. Amen. Un point que j'aimerais souligner très important, c'est que ici, Ruth, c'est une femme. Et c'est une femme qui est utilisée et qui va entrer dans la lignée de Jésus. Je crois que Dieu nous utilise pour son royaume. Et à l'épi, on a choisi de servir homme et femme ensemble. J'aimerais juste dire un instant, faire une petite pause. Je bénis Dieu pour nos épouses, qui sont parfois derrière nous en train de prier pendant que nous, on est en train de servir. Je bénis Dieu pour ces femmes qui sont derrière nous et qui nous portent. Je bénis Dieu pour Anne qui est là avec nous et qui nous prêche dimanche après dimanche et qui nous encourage. Je bénis Dieu pour Yolande qui nous impacte par ses messages. Oui, je crois que Dieu utilise les hommes et les femmes pour bénir et pour entrer pleinement dans le plan de Dieu. Allez, puis on a choisi de marcher comme ça. Et je crois qu'on est béni parce qu'on peut partager cette réalité ensemble. Oui, Dieu nous utilise parce que le plan de Dieu, c'est d'utiliser hommes et femmes parce qu'on a tous un rôle à jouer. Amen. Je peux avoir un amen un peu plus fort. Amen. Amen. Je bénis Dieu de savoir qu'il y a des femmes qui aujourd'hui étaient sur mon chemin pour que je sois devant vous. Amen. La Bible nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » En conclusion de ma première partie, Dieu cherche des hommes et des femmes capables d'accomplir son plan en travaillant main dans la main. Dieu cherche des hommes et des femmes qui, en collaboration avec lui, vont amener à des bouleversements et des changements et des situations qui vont être renversées parce qu'on aura accepté de travailler avec lui, même si ce n'est pas facile. Et j'aimerais simplement te dire que Dieu te cherche dans ta situation pour que tu sois une bénédiction là où tu vas l'être. Tout n'est pas fini. Je me souviens être passé dans ma période d'adolescence par un moment assez compliqué en termes de tout ce qui avait, je partage mon cœur, hein, tout ce qui avait trait à la sexualité, c'était compliqué pour moi en tant qu'ado. Et je ne comprenais pas pourquoi je luttais avec ça, pourquoi c'était compliqué. Et plus j'ai avancé, plus Dieu m'a amené à comprendre comment Dieu était capable de nous sortir de ces réalités. Dieu est capable de te sortir de la tentation, Dieu est capable de te sortir de la pornographie, Dieu en est capable.
Mais en passant par ce chemin-là, Dieu m'a permis des années après de pouvoir bénir des ados en leur disant « J'y suis passé et Dieu m'en a sorti ». Et je crois que les chemins par lesquels on passe nous amènent un jour ou l'autre à être des bénédictions pour les autres. Amen. Alors, oui, c'est difficile pour toi en ce moment. Oui, tu es en train de lutter. Mais dis-toi qu'un jour, tu seras une bénédiction pour quelqu'un qui passera par le même chemin par lequel tu es en train de passer. Amen. Mon premier point était celui-ci. Dieu nous utilise, Dieu collabore avec nous pour renverser les situations. J'arrive à mon deuxième point, qui pour moi, je pense, est une clé pour qu'il y ait un renversement dans notre vie. Mon deuxième point est celui-ci. Perdre pour gagner. La clé d'un renversement dans notre vie. Perdre pour gagner. Il y en a qui aiment bien perdre ici? Si vous me dites oui, c'est un petit peu inquiétant. On n'aime pas perdre. Hein, non, c'est pas quelque chose qui est naturel chez nous, la perte. Hein, non. Si vous jouez avec mon fils à la console, à FIFA, je ne sais pas s'il me regarde en moment, mais il n'aime pas quand il perd. Il aime bien quand il gagne, mais il n'aime pas quand il perd. Et on sait quand il a perdu. Je peux le dire, toute la maison le sait quand il a perdu. On n'aime pas perdre parce que naturellement, on n'aime pas perdre parce que ça nous diminue. Ça fait de nous quelqu'un plus faible. Et j'aimerais qu'on voit que dans la Bible, la perte pour gagner est une des clés, est une valeur que nous retrouvons dans l'ensemble de la Bible. Je peux vous citer Jim Elliot, qui est un missionnaire en Équateur, qui nous dit « Il n'est pas fou celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. » Je recommence parce que je vois les yeux qui se plissent. Il n'est pas fou celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Et j'aimerais qu'on voit ensemble qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on perde pour gagner d'autres choses. Qu'est-ce qu'on doit perdre ? Eh bien, on va prendre l'histoire de Naomi et de Ruth. Réfléchissez à Ruth. Si Ruth, elle suit Naomi sans retourner dans son pays, ça veut dire qu'à partir de maintenant, elle n'aura plus la possibilité d'avoir des enfants. Parce qu'elle devra, dans la loi, attendre qu'il y ait d'autres enfants qui puissent se marier avec elle. Et ce n'est pas possible. Donc elle refuse potentiellement d'avoir un enfant pour s'occuper de sa belle-mère. Elle refuse également toute la sécurité qu'elle avait dans son pays pour aller dans un nouveau pays. Elle accepte de perdre deux réalités. Prenons Naomi. Qu'est-ce qu'elle a perdu, Naomi ? Eh bien, elle perd son mari, ses deux fils. Et plus que la perte d'être chère, elle perd également son statut ici. Et imaginez-vous la perte que ça peut représenter. Et la perte est pour l'une comme pour l'autre un moment compliqué. Comment comprendre quand la perte s'attache à nous ? Dieu est-il capable de nous rendre ce que nous avons perdu ? Accepter la perte, ce n'est pas une chose facile, mais tant que tu restes attaché à ce que tu as perdu, tu ne pourras pas avancer, malheureusement. Souvenez-vous la mentalité de l'Égypte. Le peuple d'Israël, alors qu'il est dans le désert, alors que Dieu pourvoit miraculeusement, est toujours là à dire « On était mieux là-bas ». Toujours cette mentalité qui te ramène en arrière. Là, ce qui découle, c'est logique, c'est l'amertume. Quand tu vis dans ce que tu as perdu, ce qui reste, c'est l'amertume. Et les situations qu'on traverse actuellement, de deuil, de tristesse, peuvent nous rendre amers. Et ici, on n'est pas en train de reprocher à Naomi d'être amère. Mais simplement, on est en train de dire « Dieu est capable de changer cette amertume en joie ». Les blessures, les échecs, les deuils du passé, c'est ce qui nous amène à vivre dans l'amertume. Combien on rencontre de gens, et vraiment, on prie pour eux, on les accompagne, mais qui sont toujours « c'était mieux avant ». Avant, j'avais ça. Avant, j'étais là. Avant, j'en étais à tel endroit. L'église était mieux avant. Oui, c'est sûr que vu l'état avec nos masques aujourd'hui, c'était peut-être différent. Mais si on reste constamment comme ça, on ne va jamais vivre le culte aujourd'hui. Si on reste toujours à se dire « Oh, c'était mieux avant », on ne va jamais rien vivre en fait. C'était mieux avant. Ce message, il n'est pas là pour critiquer l'amertume, parce qu'on peut la comprendre. Mais ce message, il est là pour qu'on puisse partager ensemble que garder le passé ou rester accroché à ce qu'on a perdu nous empêche de progresser. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais plus tu restes fixé sur ce que tu as perdu, moins tu peux avancer parce que Dieu a prévu autre chose. Qu'est-ce qui va faire le point de jonction ? Qu'est-ce qui va faire le changement ? Une fois qu'on a compris les pertes, qu'est-ce qui fait le point de jonction ? La première chose, c'est que Naomi a choisi de quitter son passé pour revenir au présent. Naomi a accepté de quitter le pays de Moab pour revenir finalement dans ce qui est l'origine d'où elle vient, Bethléem. C'est assez étonnant quand même de savoir qu'elle revient à Bethléem, qui est aussi l'endroit où Jésus est né. Première chose, c'est que pour vivre un renversement dans notre vie, il faut accepter de quitter d'accepter que notre perte soit une perte, même si ça a été dur, et de dire « Seigneur, je reconnais que là, j'ai perdu quelque chose, mais je ne veux pas m'attacher à mon passé, je ne veux pas m'attacher à cette perte, parce que je veux décider d'aller de l'avant. » Et il va se passer quelque chose dans la suite de l'histoire, c'est que Naomi et Ruth vont rencontrer Boaz. Et Boaz est celui qui va racheter le Rédempteur. Alors, je vous pose une question très facile. Mais qui est le Rédempteur dans la Bible? Pardon. Qui est le Rédempteur? Celui qui rachète nos vies. Ça, c'est Jésus. Amen. Et ici, on fait un parallèle entre ce que Boaz va faire avec Ruth et Naomi, dans le fait où il va racheter leur vie avec ce que Jésus a fait pour nous. La réalité, c'est que pour renverser les situations, le seul endroit qui est le point de jonction par lequel tu dois passer, c'est de revenir à Jésus, revenir à Christ. D'ailleurs, s'il y a bien une personne qui sait ce que ça veut dire la perte, c'est bien lui. Non ? Mais on va plus loin. Ce que Jésus a fait en nous rachetant de nos péchés, en nous libérant de l'emprise du pouvoir de la mort, chacun doit réaliser que le Fils de Dieu l'a aimé et s'est livré pour lui-même. Il est incomparablement plus grand, il est plus riche que Boaz. Et dans son amour divin, il s'est abaissé, prenant la condition humaine. Jésus a vécu dans la pauvreté pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Il est allé jusqu'à la croix pour y subir notre place, le jugement d'un Dieu saint qui se devait lui-même de juger le péché. J'aimerais vous dire qu'une des clés pour passer des larmes à la joie, c'est de rencontrer celui qui a vécu, celui qui a porté ta souffrance. Celui qui a vécu ta perte, celui qui était avec toi dans ta perte, Jésus-Christ, le seul qui peut compatir. Jésus est celui qui est à nos côtés, qui marche avec nous. Et regardez ce que dit le psaume 126. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Quand tu reviens à Jésus, tu trouves un appui solide, tu trouves celui qui a cette épaule tellement forte, tellement, tellement énorme pour te porter dans tes pertes. C'est ce Jésus-là qui va t'amener à passer, à renverser complètement la situation. Et moi, c'est ce Jésus que je vais encore découvrir. Dans les situations dans lesquelles tu es en train de passer, Jésus est capable de renverser ta situation parce qu'il n'est pas mort à la croix en vain. Amen. Qu'est-ce qu'on va gagner? On a compris qu'il faut accepter de perdre, puis on comprend que c'est Jésus qui est finalement le point de jonction. Et qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, je crois qu'on va gagner un nouveau statut. Ruth va passer de la Moabite à, dans le texte, la Bible nous dit, ta belle-fille qui t'aime. C'est-à-dire qu'elle n'a plus le statut de simplement la Moabite, elle a le statut de membre de la famille de Naomi. La naissance d'Obed montre que Dieu va complètement lui donner un nouveau statut, une nouvelle façon d'être et de vivre. Est-ce que tu es prêt à perdre peut-être un statut au profit de l'approbation de Dieu? Perdre une certaine partie de ton identité au profit de l'identité céleste. Perdre ce qui te retient en arrière au profit de ce que Jésus veut pour toi. C'est pas évident, hein? Vous êtes toujours avec moi? Vous n'avez pas trop chaud? Un petit peu, ça va? Le statut que Dieu va nous donner, c'est celui d'enfant de Dieu. Je crois que plus que ça encore, Dieu a prévu, quand on accepte de perdre pour gagner, Dieu a prévu un présent et un avenir dans lequel il se manifeste pleinement. Malgré leur perte, elles sont restées unies, soudées, Ruth et Naomi. Et Ruth a découvert qui était le Dieu de Naomi. Je crois que Et pour l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps que ça, Dieu est capable de placer sur notre chemin des Ruth ou des Naomi qui vont nous ramener notre foi, qui vont nous encourager dans notre foi, qui vont nous bénir. Je bénis Dieu parce que l'Église, c'est ça, c'est nous l'Église. Où notre objectif finalement, c'est de s'encourager les uns les autres, c'est de se porter et de découvrir ensemble encore plus qui est Dieu. Et je crois que en étant en contact des chrétiens, de partager cette amitié, de partager cette relation les uns avec les autres, eh bien Dieu nous permet de voir un autre présent et un avenir sûr. La Bible nous dit Dieu ne nous a pas donné des projets de malheur, mais un projet d'avenir et de l'espérance. Dieu est capable de transformer tes zones de vide, tes échecs ou tes pertes en zones de bénédiction. Amen. Je vous raconte une expérience. La première année où vous êtes toujours là ? Pardon, il faut que j'arrête avec mes expériences, mais je trouve que c'est plus parlant quand... Enfin, je l'ai tellement vécu, ce truc-là, ce genre de situation. La première année où j'ai passé mon concours pour être prof, je l'ai raté. J'ai raté mon concours. Le seul truc, c'est qu'au moment où j'ai voulu passer le concours, on avait prévu le mariage. Donc, j'étais dans une situation assez compliquée où je passe mon concours. Dans ma tête, je me dis, ok, très bien, je vais préparer ma petite vie tranquille pépère. Donc, je passe mon concours, j'ai l'argent qu'il faut, je me marie, je m'installe et tout va bien. Mais là, il y a un événement que je n'avais pas compris qui s'appelle rater un examen. Et au moment où je me plante, au moment où je rate, le prédicateur, le dimanche, je venais d'avoir le résultat, et le prédicateur, le dimanche, il prêche sur un texte qui me dit « Ma grâce te suffit ». Ouais, d'accord, merci, c'est gentil, j'avais pas vraiment envie d'entendre ça. Mais j'ai compris à travers ce texte que la grâce de Dieu allait me soutenir pendant un an. Et je peux vous dire avec assurance qu'on a maintenu le mariage, mais qu'en plus de ça, pendant un an, j'étais au bénéfice de la grâce de Dieu, où Dieu a pourvu à nos besoins, et même plus que nos besoins. Parce que Dieu ne m'a pas laissé malgré mes échecs, malgré mes faiblesses, parce que dans le plan de Dieu, Dieu voulait m'apprendre à dépendre de lui encore plus. Et ça, c'est fort. Ça, c'est tellement... Alors oui, j'ai perdu quelque chose, mais j'ai gagné autre chose. Et Dieu est capable de t'amener encore plus loin. Et je terminerai sur cette deuxième partie en disant que Dieu va transformer ton amertume en de la joie. Regardez, dans Ruth 4, 14, il nous est dit, on est à la fin de Ruth, il nous est dit, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Regardez le texte. Ta belle-fille qui t'aime Ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Elle en a perdu 2. Et Dieu, à travers sa belle-fille et Obed, lui dit, mais ça va encore mieux que ça. Je ne dis pas que c'est facile d'accepter. Et je dis que Dieu est un Dieu qui est capable de combler ton intérieur, combler ton vide et de transformer tes larmes en joie. Amen. Je termine avec ce troisième et dernier point. J'aimerais juste qu'on puisse conclure sur ce troisième point. Renversement de situation ou non, j'aimerais qu'on étudie rapidement les attitudes qui découlent de notre foi. C'est important de dire que ce n'est pas les caractéristiques ou les bonnes attitudes qui amènent Dieu à agir, mais bien la bonté et l'amour de Dieu qui va pousser au renversement de la situation en accord avec la foi des trois personnages de cette histoire. Mais ce texte nous enseigne quand même des qualités qui découlent de la bénédiction, des qualités qui sont inhérentes finalement à ce qui est en train de se passer dans cette histoire. Autrement dit, la réalité c'est que Dieu cherche des attitudes qui soient le reflet de notre foi. Regardez, le premier point est celui-ci, la fidélité et la loyauté de Naomi, Ruth et Boaz. Naomi va rester fidèle et loyale envers sa belle-mère. Naomi reste fidèle envers les lois et les ordonnances de Dieu. Boaz fait preuve de fidélité envers Naomi. Je crois que dans les bons comme dans les mauvais moments, la clé qui fera la différence, c'est de rester fidèle à Dieu malgré tout, même si ce n'est pas facile. Gardez vos yeux fixés sur Dieu. Ne lâchez pas, même si tu ne vois pas la solution tout de suite. Reste fidèle. Parce que lui, il le reste, dans tous les cas. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2,11, ses paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui, nous revivrons. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Dieu est fidèle. Alors ne lâche pas, reste fidèle. L'envie de tout lâcher, on peut la comprendre. Mais Dieu nous encourage ce matin, dans nos situations, à vivre la fidélité de Dieu. Première qualité de Ruth, Naomi et Boaz, c'est la fidélité. Deuxième qualité de Ruth, Naomi et Boaz, c'est la bonté. Tout le texte est basé, si vous lisez du début à la fin, sur ce mot « ezed », qui en hébreu veut dire « la bonté ». Et il arrive à plusieurs reprises, et chaque personne va manifester de la bonté envers l'un et l'autre. Et il faut bien le dire, hein, quand on passe par des moments difficiles, quand on est dans le dur, la bonté n'est pas forcément la première qualité qui va venir en avant. Et pour autant, que ce soit Ruth, Naomi ou Boaz, les trois font preuve de bonté. Elles restent impliquées dans cette bonté l'une envers l'autre. C'est l'attitude de Ruth, moi, qui m'interpelle. Vous imaginez Ruth en train de faire des petits détails, en train de faire. Elle peut se dire, mais ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Ça sert à rien ce que je suis en train de donner là. Je fais que des petits trucs. Peut-être que Dieu voudrait quelque chose de plus grand. J'en profite, je fais une parenthèse. Peut-être que tu as l'impression que ce que tu fais ne sert à rien et que tu fais que des petites choses pour le royaume de Dieu. Mais j'aimerais dire que, aux yeux de Dieu, toutes les petites choses que tu fais ont de l'importance aux yeux de Dieu. Ce n'est pas des petites choses. Il n'y a pas de petits détails que Dieu dit, c'est insignifiant. Tout ce que tu peux faire pour le royaume, pour le plan de Dieu, sont des choses dans lesquelles Dieu veut t'utiliser. Je me souviens de cette petite mamie dans l'église où j'étais avant, et elle me dit, PS, moi je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas me déplacer, je n'ai pas de voiture, je ne peux pas faire de visite. Alors ce que j'ai décidé, c'est d'écrire des cartes postales. Et elle écrit des cartes postales à toutes les mamies de l'église. Elle était là avec sa petite écriture toute abîmée et elle collait ses armes comme ça. Et puis elle dit, est-ce que ça te va si je le fais? Elle dit, je ne peux pas faire autre chose. Mais moi, je peux vous dire que j'étais faire une visite où il y a une mamie qui a reçu cette carte postale et cette mamie a été tellement bénie de recevoir la carte postale. Tous les petits détails que tu peux faire, il n'y a pas de petits détails. Si prendre soin de tes enfants, tu as l'impression que c'est un petit détail. J'aimerais te dire que ce n'est pas un petit détail parce que tu bénis ceux qui sont l'église d'aujourd'hui, c'est ton église. Si faire le ménage, si s'occuper, t'as l'impression que c'est des petits détails. Non, ce n'est pas des petits détails. Dieu t'utilise pour bénir dans le terrain dans lequel tu es. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, bénis. Et même si t'as l'impression d'être derrière, d'être à l'arrière-plan. Je vais vous donner un exemple très clair. Hein. Si aujourd'hui, alors que je suis en train de prêcher, le gars qui est à l'ordinateur, il clique sur le mauvais bouton, il me fait tout planter. Il n'y a plus de live, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Chaque petit détail compte. Si vos chaises, elles sont propres, c'est parce que ce matin, il y a toute une équipe qui était là, qui est passée avec une lingette pour nettoyer les chaises après le mariage. Il n'y a pas de petits détails. On est ensemble pour le royaume de Dieu. Et je bénis Dieu pour l'équipe de bénévoles qui s'engage à l'épi. Je vous donne cette citation. Dieu, dans sa grâce, c'est encore la même personne qui a écrit dans les commentaires. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, manifeste cette bonté aux êtres humains. Il n'échange pas le salut, mais le donne gratuitement à cause de la relation divino-humaine. Nous ne pouvons pas donner le ezed, la bonté à Dieu. Mais si nous avons fait l'expérience de la bonté de Dieu, nous pouvons, comme Ruth et Boaz, la mettre en œuvre dans nos relations avec les autres. Je terminerai en disant que on a parlé de la foi et de la bonté, de la fidélité et de la bonté. Je terminerai en parlant de l'intégrité de Ruth et Boaz. Et Naomi d'ailleurs. Le choix de travailler malgré la difficulté, le choix de respecter la loi, c'est ce que Boaz a fait. Il a été voir celui qui avait le droit de rachat, et tout aurait pu se passer pour qu'il ne puisse pas se marier avec Ruth, mais il a choisi d'aller jusqu'au bout. Son intégrité, le fait de rester entier, intègre, sont des qualités qui ressortent de cette histoire et qui doivent nous amener, nous, dans nos temps de difficultés, dans nos temps de combat, à dire « Seigneur, je veux rester intègre, je veux rester centré sur toi ». Quelqu'un a dit, on n'a pas besoin de comprendre ce que Dieu fait pour lui faire confiance. C'est pas évident. La fidélité, la bonté et l'intégrité dans nos temps difficiles. Est-ce que c'est des choses qu'on met en œuvre? Est-ce qu'on est prêt à le mettre en œuvre? J'arrive à la conclusion et j'aimerais inviter l'équipe de louange à pouvoir remonter. On a parlé ensemble ce matin de l'histoire de Ruth. Et il y aurait encore tellement de choses à dire sur cette histoire. Il y a tellement, tellement de thèmes, de choses extraordinaires qui sortent de ce texte. Et je vous invite, si vous avez le temps cette semaine peut-être, reprenez le livre de Ruth. Relisez-le, il y a 4 chapitres, c'est pas très long. Mais relisez-le, allez voir tous les détails qui se trouvent dans ce texte parce que c'est juste extraordinaire. Mais j'aimerais croire et j'aimerais vous qu'on puisse prendre le temps encore dans cette matinée de croire que Dieu est capable de renverser les situations par lesquelles tu es en train de passer. Le titre de mon message était celui-ci, quand Dieu renverse les situations. Pour renverser les situations, Dieu veut collaborer, travailler avec toi. Pour renverser les situations, Dieu est prêt à te dire, est-ce que tu es prêt à perdre pour gagner ? Pour renverser les situations, Dieu t'encourage à manifester la loyauté, la fidélité, l'intégrité, la bonté. Et je ne sais pas où tu en es ce matin, je ne sais pas quelle est la situation, toi qui nous regardes derrière ton écran, peut-être tu te dis, moi j'aimerais tellement que cette situation par laquelle je suis en train de passer soit renversée. Et Dieu te dit, attends pas. N'attends pas. N'attends pas que tout se passe. N'attends pas que tout vienne à toi comme si tout venait naturellement. Commence à être acteur du changement. Laisse Dieu te transformer pour que tu fasses les bons choix. Demande au Saint-Esprit de dire, Saint-Esprit, aide-moi à faire les bons choix. Tu connais ce dont j'ai besoin. Tu connais les renversements dont j'ai besoin dans ma vie. Tu connais ce qui me bloque dans cette maladie par laquelle je suis en train de passer. Seigneur, apprends-moi à te rester fidèle. Dans le deuil, apprends-moi à garder les yeux fixés sur toi. Dans le choix que je dois faire pour mes études, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse pour que je fasse le bon choix. Seigneur, je veux que cette situation par laquelle je suis en train de passer se renverse pour devenir celle que toi, tu as choisie pour moi. Et Dieu est capable de faire. Alors, j'aimerais qu'on ferme les yeux un instant. Et peut-être dans ce qu'on a pu partager ensemble, tu te sens concerné ou tu dis, mais c'est ça que je veux, moi. Je veux apprendre à travailler en collaboration avec Dieu. J'ai besoin de réentendre la voix de Dieu. J'ai besoin de laisser le Saint-Esprit travailler mon cœur. Moi, je t'inviterai peut-être simplement à te mettre debout à ta place, comme un pas de foi, et toi qui es derrière ton écran, à le faire comme un choix au fond de ton cœur en disant, je veux qu'il y ait des choses qui changent maintenant. Et je t'inviterai simplement à prendre cette position et dire, Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose qui change pour moi. J'ai besoin de toi. Je veux que tu travailles avec moi. J'ai besoin à nouveau de placer ma confiance en toi. J'ai besoin de saisir que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, on est ensemble. Tu connais les situations les plus compliquées comme celle de Ruth, Naomi. Et tu sais combien ça a été difficile. Mais tu es le Dieu qui change les tristesses en joie. Quand on vient au bénéfice de Jésus, quand on vient rencontrer Jésus, tu es celui qui vient consoler nos cœurs, nous accompagner dans la perte. Nous porter alors qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire dans cette situation et nous donner un nouvel élan, une nouvelle direction. Je te prie pour que chaque personne qui est là puisse entrer pleinement dans le plan que Dieu a tracé pour elle. Qu'elle puisse vraiment réaliser et saisir que même si aujourd'hui elle ne le voit pas, Dieu n'est pas absent de sa situation. Je te prie que dans cette semaine qui va redémarrer, tu puisses lui donner des paroles qui soient précises, qui vont l'encourager, qui vont les porter, qui vont les soutenir, qui vont lui dire, mon enfant, je ne t'oublie pas, je suis avec toi. Je te prie pour tous ceux qui se sentent abandonnés, mis de côté, qui se disent, mais moi je suis tout seul, je galère. Je te prie qu'ils puissent découvrir que Dieu est celui qui change les situations. Je te prie qu'il y ait une manifestation puissante de ton esprit dans les cœurs encore, là maintenant. Et alors qu'on est tous ensemble, Seigneur, on veut te dire, je te donne tout. Je te donne ma vie, Seigneur, je veux tout laisser à tes pieds, parce que c'est toi qui contrôles ma vie. Comme Naomi et comme Ruth de dire, je retourne à Bethléem, je retourne là où c'était ma famille et je veux retourner à Dieu. Et Seigneur, je te laisse prendre le contrôle de ma vie. Je te prie pour celui qui est comme bloqué par une situation. Encourage-le dans un pas de foi réel, à enjamber la barque et marcher sur l'eau pour aller à la rencontre de Christ. Merci parce que Seigneur, tu es encore là pour celui qui est dans le besoin. Tu es notre Dieu et tu prends soin de nous. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.
Amen. Amen. Merci pour ce message au pasteur Pierre Samuel. Il y a des histoires dans la Bible qui nous enseignent, qui nous apprennent quelque chose. Et j'aime bien ce premier point qui a été mentionné. C'est une question de collaboration entre Dieu et nous. C'est un mystère. Dieu ne fait pas sans nous, mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quelles que sont nos circonstances, comme le pasteur Pierre Samuel l'a rappelé, Dieu est à l'œuvre. Je vous propose de poser un acte de prière à la suite de ce message en chantant avec moi « Je te donne tout ». En fait, qu'est-ce qu'on a à donner ? Rien n'est à nous, même pas notre souffle. Un jour, le Seigneur va nous le redemander. Il faudra rendre de compte. Mais c'est une façon de nous exprimer en tant qu'être humain. Ce que je suis, ce que j'ai, voilà qui je suis, Seigneur, je te donne ma vie. Et c'est une façon aussi de se positionner par rapport à un message tel que celui-ci pour dire oui, Seigneur, je veux que tu continues avec moi. Je veux atteindre le but que tu veux attendre dans ma vie. Je veux aller jusqu'à la destination. Oui, Seigneur, je te donne tout. Vous êtes d'accord? Peut-être qu'on peut se lever ensemble et faire cette prière de tout notre cœur. Et alors que le temps va passer, rappelez-vous de cette matinée, de ce moment où vous vous êtes positionné dans la prière. C'est un moment fort. On dit, oui, Seigneur, je te donne tout. Et il n'y a pas qu'une seule fois où nous sommes appelés à faire ce geste, ce positionnement. Bien des fois dans notre vie, il faudra se dire, ben oui, j'ai dit oui au Seigneur, j'ai dit oui, bien je renouvelle ce oui, je renouvelle ce don de moi-même, ce don de ma vie. On va le prier ensemble. Je te donne mon cœur. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, encore une fois. Je te donne mon cœur, tout ce que je suis, Seigneur. Ne m'appartient plus. Que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. peut se souvenir de cette prière demain matin au travail, et mardi, et mercredi. On veut se souvenir de ce moment qu'on vient de passer ensemble, où debout devant toi, je t'ai dit, nous t'avons dit, me voici. Sers-toi de moi, sers-toi de nous. Et même collectivement, en tant qu'Église de Jésus-Christ, on est là devant toi pour que tu nous amènes à destination de ce que tu as prévu. Quelles que soient les circonstances, tu es le Dieu souverain. Tu sauras conduire les circonstances, conduire notre environnement, conduire notre entourage. Tu sauras, Seigneur, nous ramener. Tu es bon, tu es fidèle. Et c'est là notre espérance. Ceux qui vont passer sur la table d'opération dans les quelques jours qui vont venir, ceux qui sont au chômage, ceux qui reprennent du travail, ceux qui reprennent le service, tu vois les circonstances, tu vois les entreprises, tu vois les associations, tu sais, Seigneur, là où nous sommes engagés les uns et les autres, eh bien, merci. Je te donne tout, nous te donnons tout. Et nous avons confiance en toi, que ce que tu as dit, tu le feras et tu nous mèneras à bon port. Merci Seigneur. Amen. 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 Ça veut dire c'est vrai, c'est sûr, c'est certain. Amen. Ce culte se termine maintenant. Nous saluons ceux qui nous regardent ou ceux qui vont nous regarder un petit peu plus tard en différé. Merci d'être avec nous, merci pour votre participation, on est tellement heureux de pouvoir recommencer ces cultes. Il y a des églises où on n'a pas encore commencé, mais nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir vivre ces moments, on en a tellement besoin. Les uns les autres nous disent, qu'est-ce que je suis bien content de pouvoir retrouver mes frères et sœurs. Et c'est là qu'on se rend compte de la perte. On se rend souvent compte du privilège qu'on a lorsqu'on l'a perdu. Eh bien, c'est un cadeau, c'est un privilège. Bonne semaine à chacun et à chacune. Bon courage dans votre travail, dans votre service, dans vos responsabilités. Et vous qui êtes derrière les écrans aussi, que Dieu vous bénisse. Bon courage à vous pour vos tâches respectives. Que Dieu vous garde, vous accompagne toute cette semaine. Et à dimanche prochain.